Top, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Il est 9h40, vous êtes sur France Inter et c'est reparti pour une nouvelle année dans
Quand
ce temps
on M. D'une série, on sait que ça va se terminer.
Vous me spoilez le
spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Arte, la chaîne du documentaire d'histoire, Arte, la chaîne miroir. Regardez le passé de l'Europe en son reflet cathodique, la télévision publique, lieu de débat, d'archives et de mémoire. Montrer ce que longtemps, souvent, on n'a pas voulu voir. Et parmi les sujets les plus tus, donc les plus invisibilisés, la colonisation et son immédiat pendant, le processus de décolonisation, des premières colères populaires aux guerres d'indépendance, Arte propose une histoire de la décolonisation racontée, figurez-vous, par les peuples colonisés, non, comme il est de coutume chez nous, par les puissances coloniales. Paris ambitieux, il embrasse plusieurs périodes, plusieurs continents, mais surtout plusieurs histoires dont on ne ferait plus qu'une seule, avec ce récit à la première personne du pluriel, au risque de trahir peut-être des causes et des trajectoires qu'on ne pourrait pas mêler. Passionnante question du point de vue, passionnante question des histoires globales et des histoires individuelles.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Alors l'instant M, ça n'est pas que Sonia De Villers, c'est une émission réalisée par Anne-Cécile Perrin, programmée et préparée par Redouane Tella et par Marion Philippe, Dorothée Barba aussi qui fait partie de la bande puisqu'elle est à vos côtés lorsque je n'y suis pas, Guillaume Roux, notre technicien préféré, tous ensemble, on vous envoie de bonnes ondes et des sourires pour 2020. Voilà, on a envie d'être heureux, alors on espère que vous aussi. Bonjour chers invités, Marc Ball et Karim Misquet, soyez les bienvenus.
Merci, bonjour.
Et bonne année à tous les deux. Décolonisation, c'est votre travail, le fruit de votre travail, ce documentaire en 3 épisodes qui va être diffusé demain soir sur Arte. À vos côtés, il y a un historien qui s'appelle, pardonnez-moi, Pierre Singaravelu. Je l'ai bien prononcé?
Oui, il n'est pas là, de toute façon.
Alors non, on dit ce qu'on veut, c'est ça. Allez, la décolonisation, c'est parti.
Merci bon Dieu, garde tout ça la nature beauté pour nous. Merci bon Dieu, garde comment la misère est finie pour nous.
Vietnam, Vietnam, everybody crying about Vietnam.
Un tour du monde demain soir sur Arte, donc de la décolonisation, racontée par les colonisés et non par les puissances colonisatrices. Une rupture, Karine Misquet, dans les récits qui ont forgé nos mémoires collectives, nous Français et nous Allemands, téléspectateurs d'Arte. C'est cela ?
Oui, c'est cela, effectivement. Nous, on a voulu faire une série qui soit une série mondiale, donc qui puisse s'adresser à tout le monde. Mais bien évidemment, Arte est une chaîne franco-allemande, ouais. Une chaîne européenne, donc on part de ce point de vue. Mais l'idée, c'est aussi que, bon, on est quand même plusieurs décennies maintenant après la fin des empires coloniaux, et il est temps de regarder ça autrement du point de vue de ceux qui ont été les principaux concernés, c'est-à-dire non les colonisateurs, mais les colonisés. Et même d'un point de vue narratif, finalement, c'est il y a une sorte d'efficacité, de force dramatique bien plus grande de ce point de vue-là, du point de vue de ceux qui se battent pour se libérer. Donc on pourrait dire en termes d'écriture dramatique, c'est le protagoniste, c'est celui qui vit le plus de conflits.
Alors le protagonisme, justement, par ordre d'apparition, Sarah Gilanou en Inde, Yassine Kateb en Algérie, Lumumba.
Friends, it may surprise you that a country which you are taught to regard as conservative should have chosen a woman to be its representative and ambassador.
Il voulait vraiment nous anéantir, il voulait atteindre avant tout la jeunesse algérienne. Cette jeunesse qui levait la tête, la sentait relever la tête. Et c'est allé très loin, c'est-à-dire on n'aurait jamais soupçonné tant de haine.
Je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître l'histoire glorieuse.
Voilà, Lumumba au Congo, tous les peuples colonisés parlant d'une seule et même voix, un documentaire narré à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous, c'est très inhabituel à la télévision, c'est très inhabituel sur Arte. Alors, on voit très bien ce que ces peuples, évidemment, ont en commun, hein, dans leur passé. Et pourtant, n'est-ce pas méchamment tordre leur histoire que de les assigner à une trajectoire unique et identique. Est-ce que ça n'est pas, pardon, hein, je vais vraiment me faire l'avocat du diable, épouser le point de vue des puissances coloniales, c'est-à-dire tous ces non-blancs se valent et méritent le même traitement. Ouh là là, grosse provocation, Margot.
Non, non, pas du tout. C'est intéressant, mais en fait, ce qu'on raconte aussi, c'est que à la fois c'est un impérialisme collectif européen qui se met en place à la fin du 19e siècle, et donc la réponse est collective aussi. Et c'est quelque chose qu'on a un peu oublié. Par exemple, on va parler de la libération de l'Algérie par les Algériens, la libération de l'Indochine par les Vietnamiens, mais on oublie le fait qu'il y avait un internationalisme, qu'il y avait des liens qui se sont forgés entre tous ces personnages et entre toutes ces luttes. Et c'est ce qui apparaît dans le film.
Oui,
C'est-à-dire, on part du Congo, on part de l'Algérie,
Et puis de ces grands mouvements utopiques que vous racontez dans le troisième épisode, peut-être vous pouvez en dire un mot, Karim Isqué.
Oui, alors effectivement, il y a ce grand moment, en tout cas, du festival d'Alger en 1969, qui incarne finalement une utopie, une utopie panafricaine, qui malheureusement, n'est pas allée très loin. Et quand on voit aujourd'hui les difficultés entre Maghreb et Afrique subsaharienne et le racisme qui a au Maghreb, on voit bien que ça a été un rêve, mais les rêves sont aussi productifs et peuvent être porteurs d'avenir. En tout cas, les gens de cette génération-là y croyaient, ils y croyaient encore et ils croyaient encore à cet internationalisme dont parle les marques, dont un des moments dont on parle dans le film qui est peut-être le plus frappant, c'est la première conférence anti-impérialiste de Bruxelles en 1927. Donc ça, c'est pas nous qui l'avons inventé. Il y avait Lamine Senghor du Sénégal, il y avait Nehru de l'Inde, Mohamed Hatta d'Indonésie, il y avait aussi Mess Ali Hadj d'Algérie. Tous ces gens-là ont joué un rôle important dans la libération de leur pays et ils étaient tous en contact ensemble. Donc c'est pas juste sorti de notre tête comme ça, on va mettre tous les non-blancs ensemble dans un paquet et on va leur faire dire nous. Il y avait réellement toutes ces personnes-là qui ont dit nous à ce moment-là, ils y croyaient. Je veux dire, Ho Chi Minh écrit, si je me souviens bien, dans l'Humanité dans les années 20, un article où il imagine une fédération panafricaine dans les années 60. Donc tous ces rêves-là ont existé.
Alors il y a justement un balancement très intéressant et lui aussi très problématique dans votre film entre le nous et le je. J-E, hein. C'est-à-dire que pour entrer dans les épopées des peuples congolais, kényans, algériens, vietnamiens, vous choisissez des héros, c'est-à-dire des individus qui ont renversé leur destin.
Prenez ma robe et donnez-moi votre pantalon. Vous les hommes, vous êtes des lâches. Qu'est-ce que vous attendez? Notre chef est dans cette prison. Allons le chercher.
Est-ce que vous épousez ici une histoire, alors là, qui est beaucoup plus classique à la télévision, hein, celle qui est faite de destins individuels, de princesses rebelles, de rois insurgés, celle qui est faite par Stéphane Bern, par exemple, c'est-à-dire le destin individuel au mépris des classes sociales, au mépris des groupes, au mépris des collectifs. Est-ce que ça n'est pas un problème quand on raconte l'histoire de la décolonisation, qui est une histoire collective, Marc Ball?
Je pense qu'on lit habilement les deux. Je pense que personne n'avait fait comme Stéphane Bern l'histoire de la décolonisation ainsi. Donc on refait une forme de panthéon à ces héros inconnus et qui pourtant ont changé le monde.
Oui.
Mais ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'à la fois c'est donc une histoire des élites qui se sont retournées contre les colons, mais c'est aussi une histoire du peuple. Vous avez mis un extrait de Marie Nyangirou, qui est une femme kikuyu, paysanne, et qui va, à travers son geste et sa révolte contre un commissariat, poser les premières bases de la révolte et de l'indépendance.
Un mot d'ailleurs, Marc Ball, il y a beaucoup de personnages, de grands personnage féminin. Il y a beaucoup de destins de femmes dans ces trois épisodes.
Oui, parce que ça revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire c'est une histoire de la majorité. Et dans cette majorité, il y a des femmes, dans cette majorité, il y a des Kenyans, des Algériens et des gens issus de toutes les classes sociales. Donc à la fois, il y a des princesses et des rois, mais il y a aussi des tirailleurs sénégalais qui étaient boys à l'époque à Dakar et ainsi de suite.
Karim Isqué, est-ce que nous avons nos héros de la libération, nous, Europe libérée du joug du nazisme, par exemple, est-ce que les peuples colonisés, justement, c'est leur rendre justice que de recréer ce panthéon qui est parfois très mal connu? Le panthéon, c'est le terme qu'a utilisé Marc Ball.
Oui, tout à fait. C'est une nécessité, en fait, parce que les grandes figures comme ça sont des personnes vers lesquelles on peut tous, autour desquelles on peut tous se réunir, tous et toutes. Je veux dire, on prend le général de Gaulle en France. Personne ne va penser que parce qu'on parle du général général de Gaulle, on va oublier le Conseil national de la résistance et le fait qu'il y a eu des résistants partout en France, des inconnus, comme le racontait très bien Marcel Ophuls dans Le Chagrin et la Pitié, qui ensuite sont revenus à leur vie ordinaire. Bon, bah, c'est exactement pareil pour cette histoire de la décolonisation. Il y a besoin, en fait, il y a un besoin de faire émerger ces figures. Et dans une articulation.
Qui n'est pas seulement un besoin de la télévision, qui n'est pas seulement une demande de la télévision de fabriquer des héros pour attraper le public et pour le tenir en haleine.
Non, pas du tout.
Pour créer l'identification.
En tout cas, c'est pas Arte qui nous a demandé de faire ça. Ouais. C'est vraiment venu de nous, ce désir. On s'est dit que c'était la manière la plus efficace, en fait, de raconter cette histoire et de faire que les gens puissent s'identifier à ces personnes. C'est une question de, finalement, d'identification et d'empathie. Et après, ben, on sait bien que c'est pas parce qu'ils auront vu parce que les spectateurs auront vu les 3 fois 52 minutes qu'ils vont tout savoir sur tout. Et donc, il y aura un besoin ensuite, pour ceux qui le souhaitent, en tout cas, d'aller chercher d'autres informations et de comprendre dans quoi ça s'insère.
Alors, évidemment, ces 3 fois 52 minutes, j'imagine que c'est un crève-cœur pour tous les deux. Vous avez laissé beaucoup, beaucoup de choses de côté parce que vous embrassez une période immense et vous embrassez une zone géographique immense. Donc, 3 fois 52 minutes, c'est forcément très rapide, ça rend les choses assez simples et pédagogiques, mais en même temps ça vous a obligé à renoncer à beaucoup aussi de détails, de complexité, de nuances, Marc Ball.
Oui et non, c'est-à-dire ce qui pour nous a vraiment fonctionné à l'écriture et on s'en est aussi rendu compte au montage, c'est que le fait de croiser ces histoires, de croiser les pays, fonctionnait. C'est-à-dire il y a une expérience commune du colonialisme qui est cette domination par l'esprit, par la langue, politique, militaire, etc. Et où qu'on se situe, finalement, c'était la même expérience. Et donc à chaque fois qu'on se posait, soit en Indochine, soit au Kenya, l'étape d'après, il fallait choisir une nouvelle histoire de quelque chose qu'on n'a pas déjà raconté. Une expérience nouvelle de comment on se libère de la... Du colonialisme.
Alors j'aimerais qu'on examine la façon dont vous racontez, mais vraiment au sens propre, dont vous racontez l'histoire. Le comédien Reda Kateb vous a servi de voix off, c'est lui qui la raconte.
Dans les dessins animés, il y a ce moment où, lancé dans sa course folle, le personnage se retrouve au-dessus du précipice. Tant qu'il ne regarde pas vers le bas, il ne tombe pas. Le colon, c'est pareil. Il croit nous avoir subjugués avec sa cruauté, son amour et sa civilisation. Il croit nous avoir instillé la crainte et qu'il pourra toujours nous vaincre. À la recherche de son reflet, il nous regarde sans nous voir. Et nous, pendant ce temps-là, sous son nez, on travaille à sa chute.
Il n'y a pas que le « nous » qui est très inhabituel sur Arte. Il y a le « ton » que vous employez, Karim Misquet, qui peut paraître parfois très familier, très relâché, avec, en ouverture du deuxième épisode, cette comparaison avec un dessin animé, ce qui ne se fait jamais dans un documentaire d'histoire sur Arte. Pourquoi ?
Pour faire rentrer les gens dans l'histoire.
Pour faire rentrer les gens dans l'histoire ?
Oui, c'est-à-dire que ça leur parle directement. On est allé chercher...
Quand on raconte l'histoire du point de vue des Blancs, des Européens, puissance colonisatrice, on fait un documentaire sérieux, érudit, pédagogique. Pourquoi quand on le raconte du point de vue des colonisés, on emploie un langage familier et de comparaison simplificatrice ?
Je sais pas, parce que là c'est pas nous qui faisons les autres documentaires sérieux en l'occurrence, donc je peux pas répondre pour les autres. Je pense que là il y avait un enjeu réellement de renversement et aussi de contemporanéité, de modernité. Il fallait que cette série puisse parler à tout le monde aujourd'hui, puisse parler aussi à des jeunes en France ou ailleurs, quelle que soit leur origine, que ça les attrape directement et que ça les interroge et que ça les mette de plein pied à l'intérieur de cette histoire. Et bon, après, nous, que ce soit Marc ou moi ou Pierre Singaravelou qui est notre co-auteur, on est tous aussi nourris de culture hip-hop, on est dans ce monde, on vit aujourd'hui, quoi, et donc on parle comme des gens d'aujourd'hui, ça me paraît assez naturel.
Donc ça
finalement
donne des soldats qui tirent sur les Algériens de Sétif avec cette voix off qui dit c'est la France gars. Qu'est-ce que tu crois? ça donne ça.
Oui,
ça
oui,
donne
mais...
après les rassemblements d'Alger, la réalité, c'est une gueule de bois, un putain de mauvais trip.
Mm-hmm. Ouais. Oui, c'est ça. Il faut aussi briser cette solennité. Attention, on va parler de la colonisation. Prenons des pincettes et on va être dans une repentance, soit dans une glorification parce que c'est encore le cas, mais soit dans une repentance. Ça a été une période très lourde et tout ça. Nous non, c'est une histoire positive. C'est une histoire de libération. C'est des gens qui se sont battus contre des empires dire gigantesques et qui ont changé le monde. Qui
dans
sont
cette
des héros.
Histoire positive, vous exhumez aussi des horreurs, des choses absolument effroyables qu'on connaît plus ou moins bien hein, quand on a fait sa scolarité en France. Par exemple, les exactions commises par le roi Léopold II au Congo et dans les exploitations de caoutchouc, les expéditions punitives dans les villages où les gens sont mutilés, on coupe des pieds, des mains et des oreilles aux indigènes au Kenya, ce qui a été commis par les Britanniques pour faire plier la population qui commence à se révolter, c'est une monstruosité, ces camps de concentration et de redressement. Dans quelle mémoire avez-vous plongé où vous avez eu l'impression de toucher le plus à l'omerta, au tabou, aux pincettes, comme dirait Marc Ball, Karim Misquet?
Je pense que il y en a partout. Je veux dire, cette histoire, l'histoire de cet impérialisme collectif, c'est intéressant parce que vous citez des exemples dans plusieurs empires coloniaux, belges, britanniques. On a les nôtres, évidemment, dans l'Empire français. Hein. Personne n'a. Il y a pas de. Si on fait un concours de l'horreur, je pense que toutes les puissances coloniales sont à égalité. C'est aussi ça qu'on voulait raconter. Après, l'omerta, elle est paradoxale. Je veux dire, prenons le cas de la France. Depuis que Ossarès, le général Ossarès, a commencé à parler au début des années 90 de la torture, des actes de torture qu'il avait commis, c'est un débat qui est sans fin. Oui. Les horreurs de la colonisation. Donc on le sait. C'est pas comme si c'était quelque chose de caché. On le sait, on l'oublie, on le sait, on l'oublie, on le sait,
et
on l'oublie.
Et pourtant, les vannes ne sont pas complètement ouvertes.
Non, parce que c'est très difficile à contempler, parce que c'est très dur de regarder ce qu'on a commis et nous, on est français aussi, on se met dans ce nous, je veux dire, c'est important d'arriver à le regarder collectivement. Moi, j'aimais beaucoup ce que disait le dramaturge Mohamed Rouabi, qui est né de parents algériens en France en 64, la même année que moi, et il disait, moi, je suis héritier de toute cette histoire coloniale, d'un côté comme de l'autre. Mm-hmm. C'est-à-dire que toutes ces violences, elles nous appartiennent. Maintenant, on vit dans un même pays. Là, on est sur France Inter, on parle à un public français et il faut arriver à en faire quelque chose ensemble. Mais il faut pouvoir les regarder en face pour ça.
Alors, quand une princesse prend les armes, c'est plus que véridique. Ça s'est vraiment passé. C'était en Inde. Et vous utilisez des images de Bollywood. Alors vous, héritier d'une culture de hip-hop et donc d'une culture pop, puisqu'il y a pop dans hip-hop, vous mélangez sans barguigner fiction et images de fiction et archives sur le même plan, sans jamais dire d'où viennent les images. Est-ce que ça aussi, ça peut poser problème?
Oui, encore une fois.
Parce que vous êtes bien amusé avec le cinéma et notamment avec le cinéma indien, Marc Ball.
Oui, mais alors c'est aussi la réponse à une problématique qui est que la plupart des images ont été filmées par les colons. Et les archives dont on a, qu'on avait à disposition sont le point de vue du colon. Donc déjà, le cinéma, avec un Bollywood, renverse le regard aussi sur cette histoire.
C'est extrêmement intéressant.
Et on joue de ça. Et dans les archives qui sont réelles, on va aussi chercher notre point de vue. On va aussi chercher le point de vue subjectif, ce qui reste encore de vivant et d'humain de ces indigènes qui ont été filmés, capturés par cet objectif. Et on va retrouver des images pour les réinscrire dans notre récit, mélanger avec de la musique, mélanger avec des films de fiction, pour redonner du souffle un peu à cette histoire qui n'est...
Le mot de la fin, Karim Misquet, pourquoi Reda Kateb, pourquoi ce comédien-là pour faire la voix off de ces trois
Ça s'est imposé comme une évidence. De toute façon, il fallait qu'on prenne un comédien qui soit héritier de cette histoire pour pouvoir réellement incarner justement ce jeu et ce nous, qui soit en même temps un nous collectif de toute la société française d'aujourd'hui. Et Reda Kateb, il y avait quelque chose de très très fort chez lui. Il se trouve que par ailleurs, il est le petit neveu de Kateb Yassin, non mais c'est pas
au
ça là.
Cette
ça...
histoire.
Bien sûr, mais ça n'a pas été la raison première. C'est l'immanence, je dirais.
Ouais. Merci beaucoup à tous les deux, Marc Ball et Karim Misquet. Décolonisation, trois volets demain soir sur Arte. Bonjour Ali Rebbi.
Bonjour Saint-Devillers, belle année à vous.
Mais à vous aussi.